cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeudard le 3 mai 1988.
Que voulez-vous dire quand vous dites l'être ? L'être se... Oui, d'une façon relative dans la quantité. Se dévoile d'une façon relative dans la quantité et radicalement dans la matière. Oui. Puisque la quantité comme telle, nous l'avons vu, est un être essentiellement intermédiaire. À ce point de vue-là, elle médiatise la qualité vis-à-vis de la substance. Et elle est relative à la matière. Donc, on peut bien dire que l'être se manifeste de façon relative dans la quantité. Il y a un mot que je n'arrive pas à lire, ça ne fait rien. Se voile, se dévoile. Pouvez-vous préciser comment le problème de l'un et du multiple s'est posé dans l'histoire de la philosophie ? Est-il nécessairement lié à l'analyse de la quantité ? Est-ce que dans l'analyse que nous faisons, l'un n'est pas double dans le sens que la quantité unit la substance à la qualité ? Par les sensibles communs, l'un serait alors ou la substance ou la qualité. Le problème de l'un n'est-il pas alors celui de la découverte du principe ? Oui, le problème de l'un et du multiple, nous allons le voir plus tard. Il n'est pas immédiatement donné. La quantité, c'est vrai, la quantité nous met en présence d'une certaine manière de l'un, sans, étant donné que la quantité est divisible. Alors on aboutit au terme à quelque chose qui est indivisible. On aboutit au point, on aboutit à l'un, quantitatif. Pour nous, c'est vrai, quod nos, l'un du nombre est premier. Mais il n'est pas l'un métaphysique. Alors d'une certaine manière, on pourrait dire que l'un du nombre manifeste, dévoile la métaphysique. Mais j'aimerais mieux le voir avec le problème de l'un et du multiple que ici. Alors, le problème de l'un et du multiple, pour Platon, pour les néoplatoniciens, est le problème fondamental de toute la philosophie. Pour Aristote, le problème de l'un et du multiple n'est pas le problème fondamental. Il est la propriété. Donc il est second. Il est relatif. Alors, comment se fait-il que ce problème de l'un et du multiple, qui pour Platon, qui est intelligent, pour les néoplatoniciens, qui sont intelligents, est le problème fondamental? Comment n'ont-ils pas vu que le problème de l'un est multiple n'est pas un problème fondamental et premier ? Et alors ça, c'est évident que c'est un problème critique. Et c'est toujours un peu la même chose. C'est la confusion de l'un premier génétique avec l'un premier selon la nature. Alors faites le petit schéma. Je ne m'arrête pas plus, hein, c'est simplement pour indiquer. Selon le premier, selon l'ordre génétique, je dis que c'est l'un, le multiple. Le premier, selon l'ordre de nature, c'est l'être. L'être en acte, ceci est. Primo cadit in intellectus ens. Vous voyez ? On ne dit jamais prino caditinite tous et unum. Alors comment ça se fait que des gens aussi intelligents que les platoniciens et les néoplatoniciens soient restés fixés sur l'un et considèrent que l'être est relatif à l'un? C'est vrai, ça pose un très gros problème, hein, auquel il faut tout le temps revenir, parce que de fait, dans notre philosophie occidentale, le platonisme et le néoplatonisme jouent un rôle très important. Heidegger n'hésite pas de dire que toute la philosophie occidentale est une glose marginale de la philosophie de Platon. C'est très gros, mais c'est un peu vrai. Le platonisme est très très enraciné dans notre philosophie occidentale, et le néoplatonisme aussi. Alors, je crois qu'on peut dire ceci, que dans l'ordre génétique, l'un et le multiple sont premiers. Pourquoi ? Parce que dans l'ordre génétique, qu'est-ce que nous saisissons en premier lieu ? Nous saisissons le domaine de la quantité d'une certaine manière. Oui, moi je dis dans le domaine, la qualité est antérieure, mais on peut comprendre que l'un, la quantité, c'est le divisible. Et alors, l'indivisible, c'est ce qui est au-delà du divisible, et c'est ce qui est premier. C'est vrai que l'un, dans le nombre, est premier. Comme le nombre joue un rôle capital au point de vue mesure, mais dès que je considère que la connaissance est une mesure, alors immédiatement, c'est la quantité. Et je crois que c'est ça, ça provient de cela, ça provient du fait que du côté de la connaissance, c'est le point de vue de la mesure. La mesure est l'acte de la quantité, la mesure est l'acte du divisible. Et la mesure, nous la forgeons nous-mêmes comme ce qui est indivisible. Il y a des mesures conventionnelles, puis il y a une mesure qui s'impose à nous, qui est au-delà de tout divisible. Donc, que la connaissance, prise comme le mesurable, conduise à une primauté de l'un, on comprend très bien. Oui, pour nous, hein, je ne dirais pas du tout que le premier génétique, c'est l'un. Le premier génétique, pour moi, c'est ce qui est. Jugement d'existence. Et dans le premier génétique, il y a l'un. Mais si j'ai une conception de l'intelligence, qui est l'intelligence qui mesure, alors je vois comment l'un devient premier. D'autre part, dans l'aspect critique, qu'est-ce qui est premier ? C'est l'élément, et c'est l'un. Dans l'aspect mathématique, c'est l'un. Vous voyez, il y a donc tout un aspect, et ça c'est quand même intéressant à noter, que dans l'ordre, donc, si la connaissance est considérée comme mesure, dans une perspective mathématique, dans une perspective critique, dans une perspective logique, l'un est premier. Alors, si vous considérez la connaissance comme mesure, et c'est peut-être ça qui commande tout le reste, dans le domaine mathématique, l'un est premier. Dans le domaine critique aussi, dans le domaine logique. L'universel, c'est l'un vers le multiple. Donc en critique, l'un est premier. Unum ad multa. C'est comme ça que saint Thomas définit l'universel. Unum ad multa. Unum in multa. Unum ex multis. Vous voyez, c'est l'un vers le multiple, l'un dans le multiple, l'un du multiple. Et donc, l'un est mesure du multiple. en logique. La connaissance logique, hein, veille très fort en présence d'une connaissance de mesure. La connaissance critique cherche l'élément premier, l'indivisible. Et c'est là, l'un dans l'ordre de l'intelligibilité. Et la connaissance mathématique aussi. Donc vous voyez qu'il y a quand même toute une série, j'allais dire, de familles intellectuelles qui sont tournées vers le problème de l'un et du multiple comme le premier problème. Tous ces courants. Il faut donc dépasser tous ces courants pour arriver à découvrir qu'au-delà de l'un, il y a l'être. Et que c'est très vrai que nous restons très facilement rivés à l'un sans atteindre l'être. Et seul le jugement d'existence me permet de saisir l'être. Parce que vous voyez, dans l'induction, c'est l'un dans le multiple qui me permet le dépassement. Je pourrais très bien rester dans l'induction au niveau de l'un. Si je prends l'induction d'un point de vue assez logique, je demeure dans l'un. Si je prends dans l'induction quelque chose de beaucoup plus qualitatif, je dépasse l'un. C'est très vrai que l'un est constamment rival de l'être. C'est dans ce sens qu'on peut dire que la quantité est constamment rivale de la qualité. Et que constamment je demeure dans la quantité, c'est beaucoup plus facile que dans la qualité. Mais la quantité, je la mesure, je la possède, c'est mon avoir. La qualité, je ne la possède pas, je la respecte, je la contemple. La contemplation porte sur la qualité et pas la quantité. Vous ne contemplez pas la quantité, vous vous engluez dans la quantité. Mais vous la contemplez pas, vous la mesurez, vous la dominez. Ou vous vous engluez, ça revient pas au problème. Parce que quand on domine, au bout d'un certain temps, la dialectique fait qu'on s'englue. C'est bien le maître et l'esclave. Là, vous avez la dialectique fondamentale de la domination et de l'englument. Et l'un enveloppe. À la fois, vous le dominez et à la fois, vous êtes englué. Alors, nous allons continuer, si vous voulez, cette petite réflexion sur la quantité. Donc, du point de vue de l'analyse métaphysique, la quantité est donc bien un mode d'être ayant une détermination caractéristique. Détermination accidentelle, secondaire, relative, mais réelle et fondamentale. Il faut saisir la quantité comme une manière d'exister. Elle existe. Elle s'impose. Elle est encombrante. Elle est gênante. Il faut sentir tout ça dans la quantité. C'est en effet la détermination la plus fondamentale comme détermination. Donc, c'est la forme la plus radicale. Et radicale dans le sens première dans l'ordre génétique. Vous allez voir ça. Parce que la matière n'est pas une détermination. La quantité est une détermination. C'est en effet la détermination la plus fondamentale comme détermination. Car elle est la plus proche de la matière, qui comme matière est pure capacité, n'a aucune détermination. La quantité est donc propriété de la matière. Elle détermine la matière. Et la première détermination de la matière, c'est la quantité. C'est pour ça qu'elle colle tellement à la matière, que c'est si difficile de séparer la matière de la quantité. De séparer la quantité de la matière. C'est pour ça que si facilement, on la formalise pour la séparer de la matière. D'où les connaissances mathématiques. Formaliser la quantité, le divisible. Et comme la qualité est propriété de la substance forme, la quantité est propriété de la matière. Du point de vue descriptif, scientifique et psychologique, on ne peut les distinguer. Ça, je crois, capital de bien comprendre ça. La science ne distingue pas la quantité et la qualité. Elle ne distingue pas la quantité de la matière. Et la psychologie non plus. Ce que l'on saisit, c'est une matière quantifiée. Ce que fait Descartes. Une matière susceptible d'être imaginée. La matière est imaginable grâce à la quantité. C'est la quantité qui permet de nous représenter la quantité, la matière. Une matière mesurable, qui n'est ni la matière, ni la quantité, mais une matière existante que l'on peut saisir et mesurer grâce à la quantité. Et le lien, l'alliance, matière-quantité, est une alliance fondamentale à saisir dans l'ordre existentiel. Et dans l'ordre existentiel, je ne peux pas les séparer. Donc toute philosophie descriptive ne distingue pas matière et quantité. Quand le mathématicien parle de la quantité, il ne s'agit pas non plus de la quantité comme mode d'être accidentel, distinct de la matière et de la qualité, mais d'une quantité formalisée par l'abstraction, considérée pour elle-même, dans sa pure intelligibilité sensible. Ce qui intéresse, ou intelligible si vous voulez, ce qui intéresse le mathématicien dans la quantité, c'est sa forme infiniment divisible, abstraite de la matière et de la qualité, donc prise pour elle-même. Et ça, c'est très intéressant, parce que comme les mathématiques formalisent la quantité, les mathématiques mettent la quantité tout proche de mon intelligence. Alors vous allez me dire, mais comment l'abstraction mathématique fait-elle ça? C'est tout le problème de la connaissance mathématique, qui est très curieux et qui est très intéressant. C'est très intéressant, la connaissance mathématique. Voyez, rival constamment de la connaissance métaphysique. Et c'est sous le biais de la quantité qu'on comprend le contact entre les deux et la rivalité possible. C'est pour ça que le domaine de la quantité est dans notre monde d'aujourd'hui si important. Parce que je crois que toutes les confusions se font là. Cette forme divisible pur et fondé sur la quantité. Mode particulier de l'être. Oui, le métaphysicien dira que la quantité est un mode particulier de ce qui est. Le mathématicien dira forme divisible. Mais ce n'est pas ce mode particulier de l'être que le mathématicien regarde. Ça n'intéresse pas l'être. Ce qui l'intéresse, c'est de formaliser la quantité et d'avoir un champ, un horizon, comme on dirait aujourd'hui, qui est le divisible pur, qui est le possible pur, un possible divisible, un possible maniable, qui dit divisible et maniable. On comprend alors comment certaines formalisations mathématiques, à partir de cette forme divisible, peuvent servir à préciser les mesures de la matière quantifiée, les modèles que le mathématicien peut donner, peuvent s'appliquer au réel, malgré l'abstraction, à cause que dans le réel, vous êtes en présence d'une matière quantifiée. Donc il y a un contact entre les deux. Mais ce n'est pas toujours adéquat. C'est même jamais adéquat. Il y a quelque chose qui est en harmonie et qui permet l'application du modèle mathématique. Mais ce modèle mathématique, cette forme mathématique, cette équation mathématique, ne peuvent directement nous aider à mieux saisir ce qu'est la réalité et son être réel. Puisque c'est à partir d'une formalisation qu'on connaît le réel. On ramène le réel à la forme mathématique. Donc, à cette quantité formalisée. Les mathématiques ne sont pas au service du réel, mais le réel est au service des mathématiques. Ça, c'est très curieux. Mais c'est comme ça que de fait, il faut bien comprendre les diverses applications des mathématiques au réel. Il faut donc, pour éviter certaines confusions, distinguer avec le plus grand soin la quantité mode accidentelle de ce qui est, envisagé du point de vue métaphysique, de la matière quantifiée, mesurable, que considèrent les sciences expérimentales. Et surtout, de la formalisation de la forme divisible en mathématiques. Il y a trois aspects qu'il faut bien distinguer. C'est pas commode, hein. Mais c'est absolument nécessaire. Autrement, on part dans le brouillard. On ne voit plus. Oui, le degré métaphysique, le point de vue de la réalité mesurable et la formalisation mathématique. La formalisation mathématique est très séduisante pour l'intelligence. Rien n'est plus séduisant que la connaissance mathématique. Si on n'a jamais été séduit par la connaissance mathématique, il nous manque un petit quelque chose. Il faut avoir été séduit par les mathématiques. Parce que c'est la chose la plus séduisante qui soit. Parce que c'est, vous voyez, c'est en connaturalité avec une intelligence liée à l'imagination. L'art est en connaturalité avec l'intelligence liée au sensible propre, et la connaissance mathématique est en connaturalité avec une intelligence liée à l'imaginaire. Les grands rêves mathématiques sont des rêveurs, les mathématiciens, mais de très grands rêveurs. Ils sont des rêveurs. C'est très beau, c'est très noble, un mathématicien. Très intéressant dans un couple quand il y a un mathématicien et une historienne. Parce qu'ils se heurtent tout le temps. L'idéal mathématique et le fait historique. Point de vue connaissance, c'est pas épousable. Très curieux. Parce que le fait existentiel. C'est un fait existentiel, c'est du contingent historique. Et l'idéal mathématique qui tout de suite donne des modèles, des archétypes. Donc ces précisions, hein, très importantes à faire, ces trois niveaux d'intelligibilité. L'intelligibilité métaphysique, l'intelligibilité de la science expérimentale, l'intelligibilité mathématique. Tous les trois parlent de la quantité, mais de façon totalement différente. Ces précisions sont particulièrement importantes à notre époque si l'on veut respecter les différents niveaux d'intelligibilité de la philosophie, des sciences expérimentales et des mathématiques. Essayez vous-même. C'est un aspect critique, ça. Faire la coupe histologique, critique, de la métaphysique par rapport à la quantité, des mathématiques et des sciences expérimentales. Et je dirais presque de la psychologie, des sciences humaines. Ça vaut la peine, ça, c'est très très intéressant. Vous voyez la manière dont un psychologue va regarder le domaine de l'audition, de la vue. C'est jamais les sensibles propres à l'état pur. C'est toujours les sensibles propres liés aux sensibles communs. Parce que autrement, on ne peut pas les mesurer. Le psychologue est toujours lié à l'imaginaire, conditionnement. Comme les sciences expérimentales sont toujours liées à la quantité. Donc là, il y a un domaine très très important pour nous. Difficile. Mais il faut petit à petit... Petit à petit, je vous ai déjà dit ce que je voudrais que petit à petit nous arrivions à reprendre ce que Maritain écrit dans les degrés du savoir. Je voudrais reprendre ce livre. C'est un très beau livre dans son intuition, mais qui n'est pas assez précis dans sa réalisation, et qui demanderait d'être entièrement repris. Et ça, je crois que c'est, vous mettez ça sous chantier, vous voyez. Un petit travail d'application qui serait très intéressant. Et alors, au terme, le bouquin serait repris, vous voyez. Sans trop le critiquer, c'est pas la peine. C'est une réédition des degrés du savoir. Revue et repris de l'intérieur. Et lisez-le, c'est quand vous avez le temps. C'est un très beau livre, c'est un... Quelque chose qui vaut la peine d'être lu. Il faut l'avoir lu dans ses années philosophiques, ça. Quelqu'un qui n'a pas lu les degrés du savoir de Maritain, ça lui manque un peu. Parce qu'il y a une très belle intuition, très forte. Je me souviens quand ça a apparu, ça a fait fureur. Regardez les recensions qui étaient faites de cette époque dans la revue Thomiste. C'est très amusant. Mais il faudrait reprendre ça. Vous voyez, parmi vous, il y en a qui connaissent quand même les mathématiques, la physique, les sciences expérimentales, la psychologie. Bon, il faut utiliser cet acquis pour mieux comprendre. Et dans le domaine mathématique, dans le domaine de la quantité. Du point de vue métaphysique, qui seul nous intéresse ici explicitement. Mais vous voyez, c'est curieux, hein. Quand il s'agit de la quantité, on est obligé de passer par ces détours. Détour critique. Je pourrais passer aussi par le détour logique. Je le fais pas. On pourrait. Parce que, de fait, ça nous aide, critique et mathématiques et sciences expérimentales. Donc, du point de vue métaphysique, il faut toujours bien distinguer, lorsqu'on parle de la quantité, l'être de la quantité, ou plus exactement, l'être de ce qui est quantifié est l'extension de cette même réalité. D'où provient l'extériorité, la juxtaposition, les parties intégrantes. Vous voyez, ce qu'on fait d'une façon générale, même pour la qualité. Blanc. Blanc du mur. Ce blanc existe. Je peux donc le toucher, du moins, visuellement. Je le touche. Je regarde la nouvelle façade. Blanc. Je compare avant, un petit coin qui reste. Bon. Blanc. Le blanc du mur. Jugement d'existence. J'en ai expérience. La blancheur. La cuidité du blanc. Alors faites la même chose pour la quantité. La réalité quantifiée. Avec qui le quantifier, c'est quoi? C'est le mesurable. Il y a les quantités, ça s'y existe. Vous n'avez pas une expérience directe. Quand vous touchez le mur, est-ce que vous touchez la quantité? Ou est-ce que vous touchez le rugueux, le lisse, le froid, le chaud? Et vous touchez quoi? Le sensible commun. C'est ça que vous touchez, le continu. Le sensible commun est-il la quantité? Le sensible commun est-il la quantité? Par le sensible commun, j'atteins la quantité. Et pour comprendre ce qu'est la quantité, oui, la réalité quantifiée et la quantité prise en elle-même, la forme. Forme divisible. La réalité quantifiée est mesurable et la quantité prise en elle-même, c'est la forme divisible. Cette forme divisible, quelle différence avec l'extension? Et quand je parle d'ici et que j'essaie de comprendre, je dis ceci, lorsqu'on parle de la quantité, l'être de la quantité, ou plus exactement, l'être de ce qui est quantifié et l'extension de cette même réalité, d'où proviennent l'extériorité, la juxtaposition des parties intégrantes. L'être de ce qui est quantifié implique la substance matière, tandis que l'extension de cette même réalité ne l'implique pas. Pour essayer de saisir qu'est-ce que c'est que l'extension. Et essayer de saisir trois domaines différents. Donc, la réalité quantifiée, elle existe. Vous la saisissez grâce au sensible commun. C'est vrai. C'est par le continu, la grandeur, que je saisis cette réalité quantifiée. Elle est mesurable. La quantité qui est une abstraction de cette réalité quantifiée, c'est une forme divisible. Et l'extension, est-ce que l'extension est la quantité? Pas si comme être ça, vous voyez. On est dans un domaine qui est assez épais. On sent que tout ça se tient. La réalité quantifiée, le divisible, l'extension. Donc, l'être de ce qui est quantifié implique la matière, tandis que l'extension de cette même réalité ne l'implique pas. Cette extension n'est-elle pas la détermination caractéristique, la forme propre de la quantité? C'est pourquoi on peut la considérer pour elle-même en la formalisant. Alors, est-ce que c'est tout à fait juste? Est-ce que l'extension, c'est la forme de la quantité? Ou est-ce que c'est le divisible qui est la forme de la quantité? Quelle différence entre divisible et extension? Là, je pose un point d'interrogation. Oui?
Est-ce que l'extension n'est pas uniquement sensible?
Quelle différence est-il entre l'extension et la quantité? Non, pas tout à fait. Je crois que c'est le continu qui est sensible. L'extension comme telle est abstraite. Vous ne touchez pas l'extension. Vous avez déjà touché l'extension. Vous voyez l'extension. Le continu, oui.
Une extension peut dire que c'est la dimension. Dans tous les cas, ça sera moins de la forme divisible.
C'est ça, je crois que la propriété du divisible n'est pas l'extension. Et c'est ce que je me demande, vous voyez. C'est pour ça que je me demande si ce que j'écris ici est tout à fait juste. Oui, on va le voir, hein. C'est très bien. C'est très bien d'avoir des matières qui sont encore divisibles. C'est-à-dire encore qu'on peut préciser. C'est pourquoi on peut la considérer pour elle-même, la formaliser. On formalise l'extension, mais on formalise surtout le divisible. C'est pas commun, du reste, hein. Nous saisissons là l'originalité de la quantité, ce qu'elle a d'irréductible aux autres déterminations. Seul le métaphysicien peut faire une telle distinction. Ni la philosophie de la nature, ni le philosophe du vivant ne peuvent le faire, puisqu'ils demeurent au niveau du devenir de l'être mobile. Quand vous restez au niveau du devenir de l'être mobile, vous ne pouvez pas distinguer les deux. Il faut arriver à l'être pour distinguer les deux. Pour le philosophe de la nature et le philosophe du vivant, le continu, l'être étendu, est le sujet propre du mouvement, ce qui permet le mouvement. Leur analyse ne va pas plus loin. Le fondement du mouvement, c'est le continu. Mais le métaphysicien qui s'intéresse à ce qui est en tant qu'être doit pousser plus loin son analyse et distinguer dans ce continu ce par quoi il est continu. Ce qu'il est comme continu. Le métaphysicien doit donc préciser l'existence particulière du sujet du mouvement, les diverses parties qu'il implique, et ce par quoi le sujet du mouvement est continu. Le principe propre de cette détermination particulière, c'est-à-dire la quantité. Il faudrait peut-être mieux mettre, plutôt que le principe propre, la forme propre de cette détermination particulière. Parce que ça, en strict, ce n'est pas un principe. Je crois que la quantité, il faut corriger ça. Ce n'est pas un principe. La quantité n'est pas un principe. C'est principe, vous voyez, comme une forme. Il faudrait mettre entre guillemets principe. C'est un coup. Donc on peut dire principe, mais ce n'est pas très précis. Ce n'est pas assez précis. Considérée en elle-même, la quantité est forme secondaire capable de déterminer la matière. Ça, c'est sûr. C'est ça qu'il faut bien saisir. Elle implique donc une certaine détermination, mais une détermination radicale, très imparfaite. N'est-elle pas, de toutes les formes, ce qui est la moins parfaite, la plus fondamentale, la plus radicale, la plus proche de la puissance. Non seulement elle est une forme accidentelle, relative à la substance, comme toutes les formes accidentelles, mais encore, elle est une forme indifférente, sans odeur, sans goût. La neutralité de la quantité. Oui, c'est pour ça qu'elle englue. La neutralité. Elle est neutre. Indifférente. Capable d'être déterminée par une autre forme. Ça, c'est vrai. Elle est détermination, mais elle est capable d'être déterminée. Donc, elle est détermination indéterminée. Très curieux. Détermination indéterminée. Donc ces déterminations indéterminées, elle est en puissance à d'autres déterminations. C'est pourquoi le sujet propre de la quantité auquel elle adhère est toujours un sujet matériel. Cette forme indifférente, c'est peut-être ça qui qualifie le mieux la quantité. Cette forme neutre. Les tièdes, je les vomirais. Un peu de ça, c'est quelque chose de neutre. Cette forme indifférente, Dieu ne vomit pas la quantité, hein, puisqu'elle l'a faite. Il a voulu. Il l'a pas créé. Il l'a pas créé. La quantité n'est pas objet de création. Hein. Dieu a créé des réalités qui existent. Et la quantité n'existe qu'en fonction d'une nature matérielle, d'une substance matérielle. Donc elle n'est pas créée directement, elle est concrète. Cette forme indifférente est une forme de divisibilité. Voilà. Vous voyez, enfin, ce qui était dit avant était une approche, pas plus. C'est une forme de divisibilité. Et je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est une forme de divisibilité. Et comme c'est difficile de saisir une forme de divisibilité, je ne sais pas si vous saisissez, mais... Oui, une forme indifférente. Une forme neutre. Et on est presque obligé d'employer des métaphores, hein, tellement c'est difficile. Cela, c'est pas tellement c'est le domaine des métaphores. Arrête cette forme neutre. Ne vomissez pas.